Radio, TV, digital, Tech & Co rentre dans une nouvelle ère. François Sorel.
Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre comme chaque soir 20h-22h sur BFM Business à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech & Co avec une émission un peu particulière. Si vous êtes avec nous à la télé, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans le même environnement, dans le même univers. Tout ça pour vous présenter eh bien, une petite révolution dans le groupe Altis Media, un nouvel univers tech que nous allons vous faire découvrir ce soir avec à la fois l'émission Tech & Co, vous connaissez, sur BFM Business chaque soir de 20h à 22h, mais aussi, et c'est ça qui est nouveau, un site web pour être au courant de toute l'actualité tech au jour le jour, mais aussi, et ça c'est vraiment très très fort, une vraie chaîne de télévision qui 24 heures sur 24 traitera de toute l'actualité tech, chaîne de télé que vous pouvez d'ailleurs retrouver d'ores et déjà sur les box SFR, Orange, Bouygues ou Free. Alors au menu de ce Tech & Co spécial, eh bien, on va vous faire découvrir cette chaîne, la célébrer ensemble avec tout à l'heure Pauline Ducamp et Julien Bonnet, puisque en fait toutes les mobilités, eh bien, ce sera l'un des grands chapitres en fait de la tech qu'on évoquera sur cette chaîne. Et puis tout à l'heure, j'aurai le plaisir de recevoir la directrice de la mission French Tech, Clara Chappas, sera mon invitée. Ce sera l'une des marraines en fait de cette nouvelle verticale de cet univers tech, Tech & Co. Et elle viendra nous parler justement des dernières nouveautés en matière de French Tech, puisque vous le savez, sur cette chaîne, on évoquera beaucoup l'innovation et les startups françaises. Merci d'être là et bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, un Tech & Co événement ce soir.
Radio, TV, digital, Tech & Co rentre dans une nouvelle ère.
Et oui, Tech & Co rentre dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, on la doit bien évidemment à tout le groupe Altis Media, mais aussi particulièrement à mon invité, Arnaud de Courcelles. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir François.
Directeur général de BFM Business. Bonsoir Monsieur le Patron.
Bonsoir François. Merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous, parce que c'est un moment gai dans une entreprise Exactement. De médias que de lancer un nouveau média justement, avec beaucoup d'ambition derrière, donc cet univers Tech & Co qui est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'une émission de télé et de radio que je présente tous les soirs.
Exactement. Très fier, très heureux, beaucoup d'émotions aussi également. C'est toujours quand même quelque chose de lancer une chaîne de télé, et là c'est encore plus qu'une chaîne de télé, c'est une plateforme dédiée, une verticale comme on dit dans notre jargon, mais donc on est vraiment très fier avec toi François, avec toutes les équipes emmenées aussi par Julien Milcarec, Thierry Arnaud et vraiment toutes les équipes d'Altis Media sont avec nous pour lancer cette plateforme Tech & Co. C'est très simple en fait, notre raisonnement a été vraiment des plus basiques. Nous sommes ultra légitimes sur la tech. Tu es l'incarnation parfaite de cette légitimité. Depuis 20 ans, tu traites...
Merci, monsieur le directeur.
Tu traites de cette verticale, de la tech sur RMC, sur 01 à l'époque et maintenant sur BFM Business depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, de manière assez naturelle, nous avons les experts en interne. François Sorel, Anthony Morel, Raphaël Grably, Fred Simotel, Pauline Ducamp. Tout le monde est là avec nous à traiter de la tech sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes de télé, sur tous les médias d'Altis Media, de RMC La Radio, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte et BFM Business. Il était assez légitime et cohérent de se dire on a besoin d'avoir notre plateforme, notre verticale à nous sur la tech, et donc rien de mieux que de s'appuyer sur une marque ultra puissante qu'est Tech & Co. Et donc on s'appuie sur Tech & Co pour lancer cette plateforme qui va parler à tous les publics, aussi bien les publics au sens large qui veulent s'intéresser à la tech, qui sont chez eux tranquillement, qu'à l'univers, on va dire, un peu plus B2B, entreprises et autres, qui vont s'intéresser, qui s'intéressent et qui ont besoin de s'intéresser à la tech avec toi.
Alors Arnaud, je pense à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent ce soir, ils disent ça a l'air cool, mais concrètement, comment ça va se représenter, s'imager cet univers Tech & Co. Il y a donc l'émission sur BFM Business qui ne bouge pas tous les soirs.
Exactement.
On est ensemble du lundi au jeudi. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau?
C'est très simple. On va créer un site internet, Tech & Co,
qui est déjà lancé,
qui est déjà lancé depuis quelques jours. Donc franchement, allez-y. Vous allez retrouver plein d'informations sur toute la tech au sens large. Hein. Tu en parles tous les soirs dans Tech & Co. Tu parles de toutes les techs, aussi bien l'e-santé que la mobilité, que l'innovation au sens large, aussi bien le métaverse, les NFT. Tout ça, ce sera, vous le retrouvez sur Tech & Co. De la vidéo, évidemment, donc vraiment un service vidéo dédié sur la tech, du podcast, de l'audio évidemment, déjà des podcasts qui existent déjà autour de toi, Jérôme Colombin, notamment, ou Raphaël Grably, et une chaîne de télé dédiée. C'est vraiment notre grande différence par rapport à tous les autres. C'est que nous allons avoir une chaîne de télévision disponible sur toutes les FAI de Orange, SFR, Bouygues et Free. On sera disponible partout avec des programmes dédiés 24 heures sur 24, une chaîne 7 jours sur 7 qui va tourner et qui va proposer des programmes autour de la tech.
Avec la rediffusion notamment de Tech & Co sur BFM Business.
Exactement.
À 22h, juste après sa diffusion en direct.
Exactement. Sur des BFM. Événements, on retrouvera des events aussi. Tu te déplaceras, tu te déplaces souvent avec Tech & Co. Eh bien, la chaîne Tech & Co se déplacera régulièrement sur les grands événements qui font la tech. Donc, on sera présent partout, et ça, c'est évidemment une grande nouveauté pour nous.
Alors, c'est facile de s'auto-congratuler, on est entre nous, etc. Mais si je pousse un petit peu le bouchon plus loin, en quoi on est vraiment différent des autres groupes de médias qui traitent de la tech aujourd'hui ?
Nous avons déjà les meilleurs experts de la place de Paris. Enfin, clairement, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, nous sommes ultra légitimes. On parlait de François Sorel, Jérôme Colombin, Raphaël Grabli,
Frédéric
toutes les équipes,
Simotel, etc.
Tout le monde. Donc on a les experts. On l'a testé il y a quelques mois avec la crypto-monnaie. Quand on a lancé la crypto-monnaie, pourquoi est-ce qu'on était tout de suite légitime et on avait une audience très forte sur la crypto-monnaie ? C'est qu'on avait les meilleurs experts sur la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on bénéficie de cette expertise, de cette crédibilité auprès du public. Et donc aujourd'hui, l'audience est là et la réussite est là. Sur la tech, c'est encore plus vrai de par les 20 ans d'ancienneté et d'expertise qu'on a sur ce milieu-là. Donc notre différence, elle va se situer là, et aussi sur notre capacité à passer aussi bien de la tech au sens grand public, que la tech vraiment très experte, vraiment très B2B. Et je pense que ça, c'est notre grande force de mélanger les deux, de parler à ces publics-là. Je pense que ça, c'est vraiment très important de parler à ces communauté. Je pense que c'est vraiment très important. Il y a une communauté de la tech et de lui donner de l'information et des sujets qui l'intéressent tous les jours.
Arnaud, dernière petite question. Est-ce que ce type de chaîne aussi peut servir d'expérimentation en fait, de nouveaux médias ? On parle beaucoup de métavers, d'émissions dans le métavers, avec des choses où on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais on pourra s'amuser sur Tech & Co et tenter des choses un peu folles.
Évidemment, c'est obligatoire.
Je demande à mon patron, parce que avant, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
On est un groupe d'innovation, un groupe de tech. Altice Media, évidemment, très en avance et teste beaucoup de choses là-dessus. Et rien de mieux que Tech & Co, la plateforme Tech & Co, pour tester des choses autour des NFT, autour du métaverse, autour des innovations au sens large de captation. On l'a vu il y a quelques minutes, une émission de lancement de Tech & Co en vertical.
Que vous retrouvez d'ailleurs en ce moment même
exactement,
sur la chaîne Tech & Co.
Parce qu'on doit s'adapter aux nouvelles consommations et donc on a proposé une émission en vertical car c'est ça aussi les nouvelles consommations. Donc oui, évidemment, c'est sur Tech & Co que vous verrez des choses, que vous verrez François Sorel dans le métaverse avec son équipe. Ce sera chez nous.
Oui, vous verrez l'avatar de François Sorel et croyez-moi, ça va être quelque chose.
Un beau gosse.
Tiens, j'ai envie de te coller. Est-ce que tu connais le numéro des chaînes sur les box ?
Celle de SFR, oui. Les autres, j'ai un petit doute.
Eh bien, écoute, alors moi, je les connais parce que je les ai apprises par cœur. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne 141 chez Orange, 140 chez Bouygues, 232 chez Free et donc 32 aussi sur SFR. Merci beaucoup, Arnaud. On souhaite bon vent à ce nouvel univers de Tech & Co. Et on en parle tout de suite avec Fred Simotel qui, évidemment, aura toute sa place. C'est notre maître à tous, ouais, on est d'accord.
Exactement.
Le maître du B2B, ici. Mais aussi Pauline Ducamp et Julien Bonnet qui me rejoignent. Donc, Tech & Co spécial ce soir. On sort un peu de nos habitudes pour vous présenter, célébrer ensemble cette thématique tech.
Radio, TV, digital, Tech & Co rentre dans une nouvelle ère.
Et ce soir, nous vous faisons découvrir le nouveau Tech & Co. Chaque soir, donc vous le savez, du lundi au jeudi à la radio, à la télé, hein, 20h, 22h, mais aussi un nouveau site web, Arnaud de Courcelles nous en parlait il y a un instant. Et puis donc une nouvelle chaîne que vous retrouvez sur les box de votre opérateur, que ce soit SFR, Orange, Bouygues ou Free. Alors sur cette chaîne, on trouvera énormément de sujets liés à toute cette tech qui révolutionne notre quotidien. Et puis des personnalités que vous connaissez qui auront leur rendez-vous, leur chronique, leurs émissions pour certains. C'est le cas des trois journalistes qui m'ont rejoint sur ce plateau. J'accueille Pauline Ducamp. Bonsoir Pauline.
Bonsoir François.
Journaliste donc à BFM Business et donc dans cet univers Tech & Co. Hein, et c'est toi qui es la patronne, on va dire, de tout ce qui touche à l'automobile, aux mobilités, aux nouvelles mobilités. On te retrouve d'ailleurs en route pour demain chaque week-end.
Chaque week-end.
Voilà, à mes côtés pour une émission de 26 minutes sur toutes les mobilités. Julien Bonnet, que vous connaissez aussi. Bonsoir Julien, merci
Bonsoir.
D'être là. Journaliste aussi auto, tu testes énormément de véhicules chaque année et tu auras évidemment ton émission, tes rendez-vous, tes chroniques sur cet univers Tech & Co. Et puis bien sûr, ai-je encore besoin de présenter Frédéric Simotel ? Salut mon Fred.
Bonsoir.
Ravi de te retrouver. C'est vrai que c'est un peu émouvant quand même. Hein. On lance eh bien voilà ce nouvel univers Tech & Co. Et tu auras bien évidemment une place prépondérante là-dedans puisque tu es un peu notre monsieur B2B. Et le B2B, bien évidemment, tu en parles beaucoup sur BFM Business, mais la chaîne Tech & Co, en fait, évoquera aussi le B2B.
Oui, on aura. Alors, il y a une émission qui existe depuis pas mal d'années sous un autre nom. Ça s'appelait 01 Business. Ça change de nom. Ça va s'appeler Tech & Co Business. Tech & Co Business, on y découvre quoi ? On a mis en baseline le magazine de l'accélération numérique. On est en plein dedans, cette transformation numérique de toutes les entreprises, dans l'automobile, hein, mais dans l'industrie, dans la santé. On reçoit chaque semaine hein, des PDG, des patrons du digital, des DSI aussi, qui ont toujours leur mot à dire. On parle cybersécurité, on parle intelligence artificielle. Donc tout ça, on en parle sur BFM Business dans l'émission week-end, hein, les samedis et dimanches, puis on retrouve tout ça en replay, les réseaux sociaux. Et bien entendu, ce contenu, ce format, on va le retrouver aussi sur la chaîne Tech & Co TV, puisque bah oui, aujourd'hui, on le sait bien, le numérique, c'est pas uniquement un secteur vertical avec des start-up et des entreprises éditeurs de logiciels ou fabricants de matériel. On est vraiment beaucoup plus loin. Tout ça, on a des gens qui sont, je l'ai dit, hein, dans le transport, dans l'administration. Enfin, tout ça est en train de est en train de se transformer, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et surtout que l'on comprenne que ce numérique appliqué au monde de l'entreprise, c'est pas juste de la... Enfin, je le dis un peu grossièrement, mais la dématérialisation de ce qui existait déjà, c'est vraiment de nouveaux modes, hein, de nouveaux modes dans la relation client, de nouveaux business models, de nouveaux modes de mobilité. Voilà, c'est tout ce que le numérique est en train d'apporter, est en train de révolutionner. Puis un autre point important dans tout ça, c'est les talents, les compétences, parce que là, on a un cruel manque de talents et on a du mal à les former.
Et tu évoqueras tous ces sujets, la souveraineté, bien évidemment.
Oui, évidemment. Mais... Voilà, on aura plusieurs, c'est tous les niveaux du numérique. Évidemment, la souveraineté, le rôle des acteurs américains, les blocs qui sont en train de se dessiner, hein. Un bloc occidental avec où on va inclure les anglo-saxons, un bloc russe aussi, il faut le dire, et puis un bloc asiatique qui va être l'un des gros blocs à combattre, mais avec lesquels il va falloir continuer à apprendre à travailler.
Voilà, à défier en tout cas, hein, au moins.
À défier, ouais.
Si on en a les moyens. Mais... Ouais. Et je vous invite à découvrir cette émission Tech & Co Business à la fois donc sur BFM Business le week-end, mais aussi sur la chaîne Tech & Co, parce qu'on se dit, oh là là, c'est du B2B, on ne va pas comprendre, mais en fait, tu expliques tellement bien les choses qu'on se sont tous concernés par tous ces sujets.
Il y a des débats, il y a des startups, il y a des experts qu'on retrouve d'ailleurs sur les autres chaînes. Et ce qu'on essaie vraiment, c'est d'éclairer sur... J'avais le patron du digital d'ArcelorMittal qui explique aujourd'hui comment il emmène des trains autonomes sur 200 km à transporter des bobines de plusieurs centaines de tonnes, des bobines de métal, et qu'il envoie vers le port de Dunkerque, qui est passé en 5G, parce que la 5G, c'est la grande révolution dans le monde industriel avant de l'être dans le grand public. Voilà, il y a tout un tas d'applications comme cela. Métavers, on attend de voir ça arriver. On parlait dans Tech & Co, on parle souvent de l'espace aussi. Là aussi, il y a une révolution forte. Voilà, c'est tout cet univers qui est en train de se transformer. La grande distribution, la relation client, la santé, c'est vraiment des mondes, et on explique ça chaque semaine avec des startups, des experts, des patrons de boîtes qui viennent de parler de tout ça. On a des débats parfois un peu houleux.
Et puis on a aussi des
patrons France, Europe, de tous ces grands constructeurs que l'on connaît bien, de tous ces grands éditeurs qui viennent aussi on essaie de les challenger sur leur stratégie, quoi, montrer que on n'est pas dupe de tout ce qu'ils nous racontent.
Frédéric Simotel, donc, avec Tech & Co Business. Donc, ça commence là,
Tech & Co Business, ça va démarrer le premier numéro. Alors, premier numéro officiel, puisque 01 Business existe depuis 2004.
La nouvelle mouture,
Tech & Co Business démarre à l'occasion de VivaTech. Hein, on sera très présent.
Bien sûr.
Très présent là-bas.
Tu fais bien de le préciser. Tiens, petite parenthèse. Pour célébrer en fait cette nouvelle chaîne, on va être énormément présent à VivaTech. On a calculé avec nos équipes, on va faire pas moins de 8 heures d'antenne depuis VivaTech en 3 jours, à la fois Tech & Co, hein, mercredi, toi ça sera jeudi, tu présenteras Tech & Co.
On a plein de hors-séries.
Voilà, des hors-séries, des émissions spéciales, effectivement, des émissions où on pourra découvrir des start-up. Si vous voulez vivre VivaTech et vous êtes par exemple assez éloigné de Paris, ça sera évidemment sur la chaîne Tech & Co. Merci Fred, tu restes avec nous, parce que je sais qu'il y a un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup, c'est les nouvelles mobilités. Hein. Frédéric Simotel a un vélo, pour tout vous dire. Donc, c'est quand même... Et puis, il en fait.
Mécanique.
Mécanique, en plus. Et oui. Pauline, c'est aujourd'hui devenu, j'allais dire une transversale, c'est pas un beau mot, mais en tous les cas une thématique aujourd'hui dans la tech qui est devenue capitale en fait, les nouvelles mobilités, parce qu'elle est partout. Dans tous les domaines.
Elle est partout et surtout, en plus, elle couvre tous les usages puisqu'on a la mobilité avec, on pense à la voiture électrique, la voiture autonome, ces nouveaux modes de déplacement. On pense aussi aux nouveaux usages, à cette application qui va me permettre de réserver mon bus, puis mon train, puis ma voiture en autopartage, finalement, avec une seule appli sans avoir à jongler entre les différents prestataires. Et puis, on pense aussi avec la pandémie de Covid, ce boom justement du vélo électrique, le fait que les gens ont aussi eu cette prise de conscience de comment demain on va se déplacer de manière plus écologique avec l'hydrogène, avec l'électrique, mais finalement aussi avec peut-être des voitures tout simplement moins lourdes qui donc consomment moins de carburant. Et donc, du coup, ça va nous permettre de découvrir des nouveaux acteurs qu'on reçoit toutes les semaines dans En route pour demain. Peut-être qu'on recevra le Elon Musk européen, peut-être qu'on l'a déjà reçu d'ailleurs sur notre plateau. Et ça va permettre aussi aux gens de comprendre un petit peu tous ces nouveaux usages, parce qu'on sent quand même, on le voit avec Julien, quand on discute avec des gens autour de nous, les gens sont un peu perdus, se disent est-ce qu'il faut que j'achète une hybride, est-ce qu'il faut que j'achète une électrique. Et c'est tous ces nouveaux modes de consommation qu'on va aussi décrypter.
Parce que c'est une vraie transformation, Julien, on le voit. Déjà, il y a des obligations réglementaires. D'ici 2035, plus de véhicules thermiques. C'est quand même... ça nous laisse encore quelques années, mais c'est quand même une échéance qui fait très très peur aux industriels, aux constructeurs automobiles. Et puis, il y a tout l'écosystème. Quand on achète un véhicule électrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achète ? L'autonomie, acheter une borne, trouver justement des financements, il y a des aides. Il faut un média qui explique tout ça simplement.
Moi, je pense qu'on est clairement à un tournant un peu de l'histoire dans la manière de se déplacer, notamment la voiture qui fait face à des grands défis, comment on la consommera plus tard. On voit qu'on sort un peu du schéma classique d'acheter sa voiture et qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'alternatives. On la loue en leasing. On peut aussi faire appel à des solutions d'autopartage ou même si je suis propriétaire de ma voiture, l'avenir, c'est peut-être de la laisser en autopartage à d'autres pendant que je m'en sers pas. On sait que la voiture, elle sert très peu. C'est pour ça qu'elle est aussi critiquée. Donc, on est là justement pour décrypter un peu toutes ces tendances dans l'écosystème numérique aussi avec des nouveaux usages bien sûr. Avant qu'il y ait la voiture autonome, on se posait pas trop la question de savoir ce qu'on pourrait faire au volant pendant que la voiture conduit toute seule. Là on y est aujourd'hui. Il y a le temps bien sûr pendant qu'elle est en charge électrique aussi à occuper. Donc tout ça bouleverse un peu notre manière de consommer l'automobile, la mobilité en général et c'est vraiment une période en tout cas passionnante à suivre et donc à décrypter pour tous les
avec un traitement de l'actu au quotidien. Concrètement, tu réalises des essais, tu vas sur le terrain, tu testes de nouveaux véhicules, sans concession et sans mauvais jeu de mots, tu dis ce que tu en penses. C'est toujours très intéressant de suivre toute cette thématique. Frédéric, ça t'intéresse tout ça forcément.
Oui, puis derrière, quand on prend du recul, on se rend compte de tous les pans de l'économie qui sont impactés aujourd'hui par tout ça. Il y a la logistique, et on a vu à quel point c'était important pendant ces mois de crise sanitaire. Il y a toute la partie, parce que là, on touche le monde du semi-conducteur. On voit aujourd'hui toute cette industrie qui est en train de renaître. Est-ce qu'on ramène des usines en Europe ? Est-ce qu'on en met en France ? Il y a toute la partie aussi, Julien disait, entertainment. Aujourd'hui, on voit que la bataille, elle commence à... On a Apple qui est en train de se demander s'ils vont pas, quand on aura notre vitesse et notre contour qui vont s'afficher sur l'écran, est-ce que c'est pas Apple qui va nous l'afficher ?
Donc ça veut dire... Il y a des batailles stratégiques
qui sont horribles.
Et derrière,
ça veut dire de la data qui va être analysée par des entreprises qui vont acheter cette data pour nous fournir différents services. Donc on voit vraiment que ça démarre, oui, à la voiture, on est en train de rouler, et puis, ou la trottinette, ou le vélo, et que derrière, on est dans toute une économie qui est en train de bouger et qui se répercute partout. Parce que derrière, je disais, c'est le transport, logistique, ça peut mettre la santé, la sécurité, il y a beaucoup de choses à suivre.
On est à l'aube d'un changement radical de consommation du véhicule, Pauline et Julien. On le voit aujourd'hui, le fait de posséder une voiture, c'était quelque chose qui était très important il y a encore quelques années. On voit que maintenant, un véhicule, c'est quelque chose qui se partage et qui va se louer de plus en plus et qu'on va utiliser que quand on en a besoin.
On pense aux constructeurs qui en ce moment travaillent à l'abonnement. J'ai l'abonnement pour mon smartphone, j'ai l'abonnement Netflix, Apple TV,
Spotify, etc.
Ouais. Et puis j'aurai aussi l'abonnement pour ma petite citadine ou pour une grosse berline la semaine. Donc c'est vraiment des modes de consommation qui évoluent parce que finalement, l'idée, c'est de dire, je veux me déplacer et je veux acheter un déplacement, finalement, plus que de posséder un objet qui, une voiture, ça reste quand même 90 à 95% du temps garé sur un parking, donc ça fait pas grand-chose. Donc le but, c'est soit que d'autres puissent l'utiliser, soit que moi, je ne paye vraiment que le moment où je m'en sers réellement. Donc tout ça, ça bouge et ça fait aussi entrer, Fred le disait à l'instant, de nouveaux acteurs qui, eux, ont envie de prendre leur part du gâteau.
Mais est-ce qu'on est prêt, Julien, à tout ça ? Est-ce que voilà, les Français sont prêts à partager leur voiture, à ne plus acheter leur véhicule, à rouler à l'électrique?
Bah, on va bien le voir dans les années à venir. De toute façon, maintenant, il y a un cap qui est fixé. Hein, 2035, la grande date, l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques en Europe. C'est
Paris, déjà, ça va être plus tôt, non, qui va avoir des restrictions.
Voilà, ce qu'on expliquait d'ailleurs pour relativiser un peu cette échéance, c'est que finalement, il y a des échéances qui arrivent beaucoup plus vite. Hein. Par exemple, 2024, le diesel interdit de circulation à Paris. A priori, si la verbalisation est mise en place, ça devrait quand même se faire, c'est acté, quoi. Donc non, les défis, ils sont là. Après, c'est sûr que ça va être intéressant de voir comment le public va s'adapter à ces grands changements. Est-ce qu'ils vont adhérer à ces nouvelles manières de consommer? Enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop le choix, dans le sens où c'est un peu le sens de l'histoire, qu'il y a tous les grands enjeux mondiaux autour de la pollution, des données et de l'évolution numérique du monde dans lequel on vit. Donc tout ça, finalement, c'est important d'être aussi en bonne place. Et je pense que les constructeurs européens et français sont quand même en bonne position pour tirer leur épingle du jeu.
Alors, juste un mot, parce que, en fait, sur cette nouvelle chaîne Tech & Co, que je vous invite à découvrir d'ores et déjà, hein, sur votre box, que vous soyez abonné à SFR, Orange, Free ou Bouygues, il y aura évidemment des contenus, des émissions, alors de courte durée, d'autres plus longues. Et on est en train de lancer un nouveau programme qui s'appelle Tech et Débat. Et pour notre premier numéro, on s'intéresse à Elon Musk, qui est évidemment, la star du véhicule électrique. Fred, est-ce que tu penses que Elon Musk est en train de bouleverser l'industrie automobile avec ces voitures électriques, le fait qu'on mette à jour sa voiture en 4G la nuit, que tu puisses jouer à des jeux vidéo dans ta voiture. Enfin, il y a des choses que les anciens constructeurs n'osaient même pas imaginer que Elon Musk est en train de mettre en place.
Bouleversé, je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure. Je pense que je reprendrai ce que dit Pauline. Il est plus en train d'accélérer tout ça. Parce que finalement, on est dans une évolution. On voyait venir, il y a l'électrique, on allait y arriver un jour, mais on ne savait pas trop. Là, il a accéléré comme il a accéléré dans d'autres domaines. Après, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et là, attention, parce que l'Europe, il ne faudrait pas qu'elle le rate, c'est tout l'enjeu autour de la data. C'est bien beau d'avoir du logiciel, c'est bien beau d'avoir de la mécanique, de la physique, enfin, tout un tas de choses qui tournent autour du véhicule, des services autour. Mais la data, il faut faire attention de ne pas se la faire piquer. Alors aujourd'hui, on voit hein, Carlos Tavares ou Luca De Meo disent à chaque fois on n'est plus des sociétés, des constructeurs auto qui intégrons de la tech, on est des boîtes de tech qui produisent des voitures.
Pour appuyer sur le bouton transformation, toi qui parles de transformation numérique, c'est pas gagné.
Hein. Ouais, non, et justement,
pour ces vieilles dames qui essaient de se métamorphoser.
Et sur cette data, c'est ça qui est en train de. Parce que cette data, c'est ce qui va nous servir à partager les voitures, à voir où sont les bornes, il y a tout un tas de choses qui vont être faites, à vendre du service autour de ça. Et là, aujourd'hui.
Et puis savoir plein de choses sur nous aussi, accessoirement.
Et aujourd'hui, on n'est sans doute pas les mieux placés pour exploiter cette data, qu'elle soit la data telle quelle, mais même la data en tant que. Où est-ce qu'on la stocke? On parle beaucoup de cloud aujourd'hui. Mmh. Le cloud public à 70% aujourd'hui, il est américain. Alors, il faut jouer sur le cloud edge, c'est-à-dire être au plus proche de la fabrication de ces data. Et là, il y a de très, très gros enjeux dans le domaine. Et là, il faut investir encore des milliards. Et ce n'est pas aux constructeurs auto de le faire, c'est à leur écosystème. Mais l'écosystème européen est compliqué à constituer autour de cette data.
Oui, et puis en plus, il faut mettre tout le monde au diapason. Hein. Investir des milliards dans des bornes de recharge, parce que pour que les gens aient envie d'investir dans des véhicules électriques, il faut qu'ils soient rassurés, non? Aujourd'hui, on en est encore loin, non? D'un maillage, en tout cas sur notre territoire français, de bornes de recharge qui soient plutôt rassurants, non? Pauline ou Julien, je ne sais pas qui veut.
Il y aura un bon test, j'ai envie de dire, à venir, là, c'est avec les vacances d'été. On a vendu un nombre record de voitures électriques.
Parce qu'on a eu quand même des moments un peu compliqués, hein, durant certaines vacances, parce que
évidemment. On a connu des week-ends de Pentecôte ou d'Ascension où il fallait faire plusieurs heures de queue pour pouvoir se recharger. Et c'est justement, Julien a raison, c'est les grandes vacances-là vont être un peu un test puisque les gens vont avoir envie d'utiliser leur nouvelle voiture électrique. Est-ce que ça ne va pas se transformer en cauchemar lors du moment?
C'est pas gagné, non. Enfin, sincèrement, on ne veut pas aussi faire paniquer les gens, mais.
Non, bien sûr, c'est sûr qu'on est en retard sur l'objectif, on va dire, de déploiement des bornes de recharge publique, donc qui sont essentielles pour le maillage. Après, sur les trajets longue distance, c'est compliqué parce qu'on a un réseau qui se développe quand même très vite. Donc après, c'est ça qui est compliqué à cerner. C'est finalement, est-ce que cet été, on aura beaucoup de gens qui ont acheté une voiture électrique, mais qui s'en servent au quotidien sur du trajet domicile-travail et qui, là, auront trouvé une autre solution?
Ou prennent le train ou l'avion, ou alors louent une voiture pour de longs trajets.
Exactement,
etc.
Parce qu'on dit souvent que finalement, la voiture électrique, peut, alors bien sûr elle est plus chère à l'achat, mais elle est censée générer une économie à l'usage, parce qu'on voit en ce moment avec les prix des carburants, bon, ça donne très envie de passer à l'électrique, même si l'électricité est aussi chère en ce moment. Mais en tout cas, ça crée une sorte de d'épargne liée à l'économie qu'on réalise, qui vous permet potentiellement de louer une voiture pour les vacances. Alors c'est sûr que ça change les habitudes, et ça c'est vraiment une tendance aussi qu'on essaye de suivre beaucoup dans En route pour demain, c'est justement de sortir de la voiture qui servait à tout faire,
bien sûr,
pour passer à des usages beaucoup plus
Des, j'allais dire chirurgicaux, c'est-à-dire des choses
surtout se poser la question à quoi va me servir ma voiture la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, si on s'en sert en semaine pour aller au travail, bah a priori si on a un aller-retour à faire par an pour aller voir la famille à l'autre bout de la France ou en Europe, il y a peut-être quelque chose à trouver comme alternative que d'avoir une voiture qui va être juste énorme, par exemple pour un usage annuel.
Allez,
mais voilà, donc on va suivre ça.
Pour terminer, j'aimerais vous poser une question et avoir une réponse rapide, s'il vous plaît, pour tous les trois, pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous rêvez de vous retrouver dans une voiture autonome? Vous rentrez dedans, vous dites « je veux rentrer à la maison », vous vous occupez de rien, vous travaillez, vous bossez, vous faites des vidéos, vous jouez. Est-ce que ça vous fait rêver, ça? Tiens, Pauline, par exemple.
Ah, moi, ça me fait rêver. J'étais une fan absolue de la série K2000 quand j'étais petite. Et du coup, j'ai vraiment envie d'avoir Kit qui vient me chercher devant chez moi et qui m'emmène au bout du monde dans des aventures. Donc oui, j'ai hâte que ça arrive.
Julien?
Oui, on a toujours un peu du mal à renoncer au plaisir de conduire, comme on dit. Mais c'est vrai que quand on circule dans des grandes villes, le plaisir de conduire...
Il est quand même limité. Hein.
On ne connaît plus trop. Donc c'est vrai que moi, non, je rêve quand même de mettre devant ma série Netflix préférée pendant que ma voiture me ramène chez moi tranquillement, plutôt que d'être dans la galère des bouchons. Donc non, la technologie m'attire. Après, il faut voir les enjeux, etc. Mais oui, ça m'attire beaucoup.
Fred, on va y arriver, non? Sans doute.
Oui,
et toi, tu es plutôt pour?
Moi, oui, largement pour. Moi, autonome et volante. Voilà, c'est ma grande...
Normal. C'est Fred Thibautel. On est toujours.
On lui prépare.
L'héliport est juste à côté en plus, t'as vu, donc t'es prêt.
Ah, mais moi-même, depuis chez moi, sur le toit de mon immeuble, hop, et voilà. On s'en va. Non, mais c'est. J'y crois à fond, et puis. J'y crois à fond. On verra dans certains contextes, mais oui, j'attends ça avec impatience.
Voilà, c'est l'un des chantiers qu'on évoquera souvent, en fait, dans ce nouvel univers de Tech & Co, bien évidemment. Merci, Pauline Ducamp.
Merci, François.
De la rédaction de Tech & Co, merci à Julien Bonnet, et merci à Fred Thibautel, qu'on retrouve très vite. Bien sûr. Dans un instant, vous allez retrouver le journal. Il est bientôt 20h30. Et puis, nous, on va être de retour sur notre plateau de BFM Business pour poursuivre Tech & Co et célébrer toujours, en fait, cette nouvelle verticale tech avec une invitée de marque. Dans quelques instants, ça sera Clara Chappaz, la patronne de la French Tech. À tout de suite.
Radio, TV, digital, Tech & Co rentre dans une nouvelle ère. François Sorel.
Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Tech & Co avec un habillage un petit peu différent. C'est plaisir ce soir. Écoutez, jusqu'à 21h, on vous fait découvrir la nouvelle identité visuelle de cette plateforme Tech & Co avec à la fois l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter, que vous connaissez puisque vous êtes là ce soir, Tech & Co sur BFM Business. Un site web, je le disais tout à l'heure, un vrai site qui s'appelle Tech & Co, et puis donc la chaîne Tech & Co 24h sur 24, toute actualité tech, et vous retrouverez d'ailleurs tous les soirs Tech & Co, votre émission, eh bien sur cette chaîne à partir de 22h, la rediffusion donc de Tech & Co. Alors tout à l'heure, on va s'intéresser à quelques petites surprises, et notamment les deux parrains de ce lancement, de cette nouvelle verticale, de ce nouvel univers tech. Mais auparavant, j'accueille, en quelque sorte, l'une des marraines aussi de cette soirée. C'est Clara Chappaz qui est avec nous en visio. Bonsoir, Clara.
Bonsoir.
Merci d'être là, Clara. Sincèrement, Clara Chappaz, directrice de la mission French Tech, en pleine préparation de Vivatech. Vivatech qui ouvre ses portes demain. Clara, on est ravis de vous avoir ce soir sur le plateau de Tech & Co pour célébrer cette nouvelle univers de tech chez nous. Parce que c'est vrai que la French Tech, pour Tech & Co et pour le groupe Altice Media, c'est très important. On reçoit des centaines de start-up dans cette émission, mais aussi dans toutes les autres émissions. Et on est très heureux de vous soutenir, Clara, tout au long de l'année.
Merci et bravo pour ce lancement.
C'est très gentil. Merci. C'est important pour vous d'avoir un média comme ça qui soutient la French Tech? J'imagine que oui, forcément, parce qu'on essaie aussi d'apporter une espèce de caisse de résonance à tout ce que vous faites.
C'est extrêmement important. Je pense que le rôle des médias dans le développement de l'écosystème French Tech a été très important, très critique. Ça a fait partie de la stratégie qui a été mise en place depuis 2013, le lancement de la mission French Tech, cette vraie stratégie d'attractivité qui a permis de créer la marque French Tech, le fameux coq rouge que je porte aujourd'hui, mais qui n'aurait pas rayonné sans le soutien des médias. Parce que on était, bien sûr, en 2013, mais on est encore, en quelque sorte, en 2022, un écosystème un peu à part qui a encore besoin de visibilité, de pédagogie et de pouvoir montrer ce que font ces entrepreneurs de la French Tech dans tous les domaines, que l'on pense à des entreprises comme Insect à Amiens ou encore Life à Nantes ou des entreprises beaucoup plus connues et grand public comme Blablacar, qu'on ne présente plus sur la mobilité. Chaque entrepreneur, finalement, a sa thématique, a sa volonté, a son ambition, et d'avoir des médias qui peuvent montrer ce genre de réussite, montrer ce genre d'expérience, c'est extrêmement important dans cet objectif de pédagogie et de rayonnement.
Et puis on vous suit, Clara, on s'est vu au CES de Las Vegas, voilà, on suit la French Tech dans tous les points chauds d'actualité, et on sera d'ailleurs demain à Vivatech, hein, pas très loin de la French Tech, et évidemment de toute cette émulsion de start-up et de créativité française, hein, puisque demain, voilà, Vivatech, ce grand rendez-vous de la tech qui reprend des couleurs cette année, hein, puisque voilà, il n'y a plus de jauge, on pourra être des milliers à s'y rendre, et j'imagine que ça va être un moment important pour vous si Vivatech, non Clara?
C'est un moment très important en effet, et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, le fait que les médias comme Tech & Co nous suivent partout dans toutes nos activités, je pense qu'il y a aussi un rôle qu'on peut fortement souligner, c'est celui de participer à l'émergence de rôle modèle de la tech qu'on retrouve dans ces salons, qu'on retrouve au CES, qu'on retrouve à Vivatech demain, et je vais y revenir dans un instant. Mais pourquoi c'est important? Parce que on est finalement sur un écosystème qui a encore énormément besoin d'accélérer et qui, notamment sur des sujets de diversité, reste encore un peu à la traîne. On a beaucoup grandi d'un point de vue économique avec un passage de 3 licornes en 2017 à 27 ce matin. Covadis, la toute dernière licorne, mais qui reste sur un type de profil d'entrepreneur qui se ressemble beaucoup. Or, la question de pouvoir montrer cette diversité de secteurs, cette diversité de projets entrepreneuriaux, mais aussi cette diversité de fondateurs est cruciale, et je sais que vous faites un travail formidable là-dessus en allant, comme on l'a dit dans tous les événements, comme celui de demain, en allant au contact de nos régions pour rencontrer les entrepreneurs aussi sur le territoire. Et cette question du rôle modèle est vraiment cruciale. On a lancé la semaine dernière, ou il y a 10 jours maintenant, une nouvelle initiative qui s'appelle le pacte parité pour vraiment aller à l'encontre de ce qu'on voit sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes encore dans ce monde de la tech, et pouvoir montrer justement via ces médias des réussites entrepreneuriales portées par des femmes, c'est aussi participer à cet effort d'accélération sur des sujets comme celui-ci. Et pour cela, le rôle des médias est vraiment crucial.
Oui, c'est vrai. Et puis, vous le dites, hein, on adore délocaliser Tech & Co. Hein. On est allé à Montpellier, on est allé à Cannes, on est allé à Marseille, à Lyon. Parce que c'est vrai que dans notre entre-soi parisien, on est bien, mais la tech, et c'est ça qui est formidable, c'est que elle est partout en France. On a des pôles d'excellence qui sont formidables, hein, Clara.
On a notre réseau, en effet, de capital et de communauté French Tech. Il y en a une centaine sur tout le territoire français, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, on a eu l'occasion, en amont de Vivatech, de les rassembler. C'est vraiment incroyable de voir l'énergie qui est déployée pour la plupart de ces réseaux de façon complètement bénévole, avec cette volonté d'animer l'écosystème, d'accueillir les entrepreneurs partout où ils sont et de faire rayonner cette French Tech. Et je pense que, pour retourner sur Vivatech, c'est aussi la beauté de Vivatech, c'est d'avoir su s'imposer finalement en quelques années, il me semble que c'est seulement la 7e édition de Vivatech, comme un événement phare qui rassemble la tech en France, mais au-delà de nos frontières, qui crée encore et qui participe à cette dynamique d'attractivité en attirant des entrepreneurs du monde entier ici en France et en participant à cette construction commune de la tech française.
Qu'est-ce que ça apporte à la French Tech d'être à Vivatech? C'est de rencontrer, vous le disiez, des personnes, des entrepreneurs inspirants qui viennent ou alors de France, mais aussi de l'étranger. Mais c'est aussi peut-être pour faire du business, non? On rencontre des clients à Vivatech, complètement. J'imagine.
Complètement. Je pense que, comme un peu sur le CES, c'est des moments très importants dans la vie entrepreneuriale d'un fondateur, parce que c'est des moments collectifs d'échange d'abord avec ses pairs. On va pouvoir rencontrer toutes les entreprises de son secteur. Par exemple, nous, la French Tech, on y reviendra, on a choisi cette année de mettre l'accent sur la Green Tech, donc ces startups au service de la transition écologique, donc de pouvoir avoir ce lieu qui les rassemble pour échanger sur les différentes problématiques liées à ce secteur. C'est extrêmement valorisant, on apprend beaucoup de choses. On rencontre aussi une des spécificités de Vivatech que les entrepreneurs aiment particulièrement, des corporates, des grands groupes avec lesquels on va pouvoir en effet faire du business, peut-être réfléchir à des potentiels investissements de ces grands groupes dans les startups. Donc il y a une véritable synergie sur l'innovation qui va au-delà des startups et qui rassemble ces deux mondes. Et c'est bien sûr toujours l'occasion de pouvoir montrer son projet, déployer ce qu'on a fait dans l'année, faire quelques annonces et participer à cette dynamique un peu de représentativité de l'écosystème startup.
Clara, merci. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très, très occupée à quelques heures donc du lancement de Vivatech. Merci d'avoir été avec nous et de faire partie de la famille de Tech & Co. Voilà, on est très heureux tout au long de l'année, sincèrement, hein, de pousser comme ça, de promouvoir la French Tech et les pépites françaises. Et voilà, donc on est heureux de vous avoir eu. Et on se croisera sans doute sur les allées de Vivatech, puisque bien sûr, Tech & Co sera présent à Vivatech. Demain, par exemple, votre Tech & Co sera réalisé depuis ce salon, et puis ce sera la même chose jeudi. Ce sera présenté jeudi d'ailleurs par Frédéric Simotel. Merci beaucoup Clara Chapaz et bon salon. À bientôt. Il est temps maintenant, d'écouter un tout petit mot de nos deux parrains de cette nouvelle plateforme, de ce nouvel univers de Tech & Co. Et deux parrains prestigieux. Vous allez écouter Marie-Christine Levet, qui est une pionnière d'Internet, qui depuis 20 ans a mené des projets fabuleux. Son dernier travail actuellement, c'est d'être la patronne du fonds et du capital pour justement trouver les startups de demain qui créeront, on va dire, l'éducation parfaite. Et puis aussi, autre parrain prestigieux, c'est Luc Julia, l'un des papas de Siri. On les écoute.
Je suis très très fier d'être le parrain de la nouvelle chaîne Tech & Co. Je pense qu'avoir une chaîne dédiée spécifiquement aux technologies est très important. C'est très important aujourd'hui parce qu'il se passe quand même plein de trucs dans la tech. Il faut pouvoir décoder un peu toutes ces choses-là, il faut pouvoir l'expliquer. Il faut pouvoir avoir des gens qui viennent un peu partout dans le monde aussi qui puissent expliquer ce qui se passe. Et typiquement, c'est ce qu'on a dans les émissions de François Sorel, par exemple, où on peut avoir des opinions de plein de gens, de plein d'endroits et qui ont des opinions différentes aussi qui viennent les exprimer sur cette chaîne.
Je suis ravie d'être la marraine de Tech & Co TV. Alors l'internet bouillonne, on parle de Web3, de métaverse, 84% de la population française est connectée à internet. Donc il était temps que l'internet pénètre dans les foyers, dans la télé, dans le téléviseur des Français pour expliquer tout ce qui se passe dans ce monde incroyable qui bouge très très vite et dans lequel il y a énormément d'innovations, de salons, de lancements de produits. Donc une chaîne à suivre au quotidien.
Merci donc à nos deux parrains, donc Marie-Christine Levet et Luc Julia. On accueille maintenant Sabrina Cagliosi depuis New York. Salut Sabrina.
Salut François.
Écoute, je suis ravi de te retrouver pour une émission un peu particulière. Voilà, c'est la fête ici à Paris, vraiment,
mais,
je t'avoue.
Mais François, félicitations, quel super projet là, bravo, Tech & Co TV, là, super vertical. N'hésite pas, moi je suis là,
Je sais que tu es là.
Si besoin, il se passe plein de choses ici aux États-Unis, à ta disposition,
et
comme d'habitude.
Voilà. Et on a beaucoup de chance de t'avoir tous les soirs, Sabrina, merci beaucoup. On va parler de l'actu, puisque c'est quand même un peu le moteur de tout ce qu'on fait. L'actu, c'est ce soir la plateforme Coinbase qui redoute un hiver des cryptos et licencie, on peut le dire.
Ouh là là. Ouais.
Ça rigole pas.
Pas une actualité pas super glam là en provenance des États-Unis. Je suis désolée, François. Oui, la plateforme d'échange de crypto qui subit bien sûr de plein fouet l'effondrement de son titre en bourse. C'est quand même un plongeon de plus de 80% depuis le début de l'année. Il subit plein fouet également, bien sûr, la chute des cryptos. Alors, dans un email qui a été envoyé à ses employés, Coinbase a annoncé qu'il allait donc réduire ses effectifs de 18%. C'est 1100 employés sur plus de 6000 employés à temps plein. Le patron, Brian Armstrong, explique redouter une récession après un boom économique de plus de 10 ans. Cette décision difficile a été prise pour nous assurer, je cite, de rester en bonne santé pendant ce ralentissement économique, explique le patron de la plateforme. Une récession pourrait d'ailleurs conduire à un autre hiver des cryptos, en crypto winter, et pourrait durer pendant une période prolongée, un contexte économique challenging. Donc, mais pas seulement, hein, François, pour expliquer ces licenciements, Brian Armstrong évoque également une expansion trop rapide de la société. L'entreprise, pour rappel, employait 1250 personnes début 2021 contre plus de 6000. Donc aujourd'hui, en début d'année, la société avait même indiqué prévoir 2000 embauches supplémentaires. Mais donc le discours a bien changé depuis. Ça avait d'ailleurs commencé il y a quelques semaines, hein, avec l'annonce de la suspension des embauches. Nos coûts sont trop élevés pour naviguer dans un marché dominé par l'incertitude. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que nous avons surembauché, explique Brian Armstrong. Coinbase avait fait ses débuts, souviens-toi, en bourse en avril 2021 via une cotation directe. Alors, le titre est en repli donc de 80% depuis le début de l'année et de 85% depuis son plus haut historique. La plateforme pèse aujourd'hui 13 milliards de dollars quand même toujours. Hein, et dans le même coin, dans le même temps, le Bitcoin a perdu lui plus de 50% de sa valeur cette année. Donc pas terrible du tout. Là, ça fait mal pour la société.
C'est chaud, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, on va parler, alors j'allais dire, d'un sujet un peu plus gai. Pas forcément, parce que c'est vrai qu'Elon Musk nous souffle le chaud et le froid, concernant Twitter. Un coup, il veut racheter, un coup, il veut pas racheter. Mais malgré tout, Elon Musk s'est engagé à rencontrer les employés de Twitter, Sabrina.
Ouais, effectivement, ouais, c'est le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, qui a annoncé le meeting, la rencontre, dans une lettre envoyée aux salariés, précisant que ces derniers pouvaient soumettre leurs questions à l'avance. C'est la directrice du marketing de Twitter, à savoir Leslie Borland, qui va s'occuper d'animer cette rencontre qui va avoir lieu donc jeudi. Le patron de Tesla a déposé, hein, on a souvent parlé ensemble en avril, ce projet d'acquisition pour 44 milliards de dollars, mais on le sait, hein, depuis ça a connu quand même pas mal de rebondissements. Ça laisse même planer le doute, hein, sur les intentions d'Elon Musk. Le milliardaire a même récemment indiqué que le deal était suspendu, se plaignant de ne pas avoir suffisamment d'informations sur la proportion de spam, hein, et de faux comptes sur la plateforme, qu'il juge bien plus élevé, hein, que ce que Twitter affirme. Il a d'ailleurs menacé il y a peu, dans une lettre à la SEC, de retirer complètement son offre, hein. En bourse, on reste sous cette offre qui est à $54.20, ce qui montre bien l'incertitude, en tout cas les doutes de la communauté de Wall Street et des investisseurs. Avec cette rencontre, ça sera intéressant de voir quel est le sentiment des employés. Depuis l'annonce du deal, on l'a vu, hein, sur Twitter, bien sûr, hein, il y a bon nombre d'employés qui se sont exprimés. Alors c'était quand même assez partagé, hein, réaction positive, réaction négative, événement. Donc on verra quelle sera la tonalité de cette rencontre entre le milliardaire et les employés de Twitter. Ça va être intéressant donc de voir s'ils arrivent à s'entendre, hein. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera à surveiller ce jeudi, mon cher François.
Il va peut-être leur demander de plus télétravailler, d'aller au boulot 40 heures, comme il l'avait dit, comme il avait tweeté la semaine dernière,
tu te rappelles. Oui, il aura plus ou moins demandé déjà sur Twitter. Donc ça, c'est fait. On va peut-être voir autre chose, en revanche. Hein. Ça va être super intéressant de voir comment ça va se passer.
Exactement. À mon avis, ça risque d'être un petit peu tendu, hein, quand même. Bon, on verra. Oui. Et espérons qu'on ait quand même quelques fuites de ce qui va se passer. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci, François, et encore bravo.
Merci beaucoup, à très bientôt. Bientôt 21h, Tech & Co. Alors, on va terminer cette première partie inaugurale et revenir à l'environnement et à l'habillage que vous connaissez. On va attaquer notre deuxième partie dans un instant avec, au sommaire de Tech & Co, pour cette deuxième heure, eh bien, on va s'intéresser à la Fashion Tech, Eleven Paris, qui investit le Web3. Et puis, on s'intéressera aussi à un truc de dingue, la billetterie qui arrive sur NFT, c'est passionnant. Et puis, en deuxième partie, ce sera la French Tech, une French Tech spécial agroalimentaire avec deux pépites dans ce domaine qui me rejoindront. Nous aurons InnovaFeed, mais aussi Agriconomie. Voilà, vous restez là. Tech & Co, deuxième partie, 21h-22h. On revient dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. On va plonger encore une fois dans le Web3 avec deux exemples concrets de ce qui se trame en fait dans cet univers incroyable. Je vous présente mes invités. Ilan Amar, bonsoir.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Directeur général d'Eleven Paris.
C'est ça.
Vous savez que notre productrice Léa, qui est juste derrière ce mur, hein, en fait, qui est en train de s'affairer pour que l'émission se déroule bien, est fan de votre marque.
Ben, c'est rassurant, merci Léa.
Il y a encore quelques années, elle achetait tous vos t-shirts. Elle me mimait vos t-shirts pour vous dire, voilà, ça, c'est incroyable. C'est sa maman aussi qui s'en souvient, visiblement. Merci d'être là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas été invité par Léa et pour parler que de ces t-shirts, c'est que vous vous lancez, évidemment, dans l'aventure de la crypto. Vous allez, en fait, créer une monnaie pour récompenser, en quelque sorte, la fidélité de vos clients.
Exactement.
On va en parler dans une minute. Et puis, notre deuxième invité, Robin Champsé. Bonsoir, Robin.
Merci pour l'invitation.
Co-fondateur de Billy. Alors, vous êtes dans la billetterie et vous êtes une start-up qui veut faire des tickets en NFT, l'avenir de la billetterie. Et c'est super intéressant parce que on voit qu'il y a des initiatives qui sont menées à droite à gauche. Je crois que pendant le grand rendez-vous de foot américain, il y a eu un truc comme ça, non ? Il n'y a pas eu des billets
du Super Bowl
qui étaient vendus en NFT.
Ouais, il y a une partie, ouais. Ça commence aussi dans le monde du basket, dans le sport.
Ça commence à bouger. Et vous allez me dire un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Mais on va commencer peut-être par Ilan. Ilan, Eleven Paris. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, donc on ne s'adresse pas à Léa, on parle à tous les autres. Et puis quand même, pas qu'à tous les autres, à tous ceux qui aiment votre marque, parce que vous avez, j'imagine, une fanbase importante.
C'est ça, Eleven Paris, un petit historique, c'est une marque qui a été créée en 2003 par le fondateur...
L'année prochaine, 20 ans, mine de rien.
Exactement, donc ce sera un moyen justement de se retrouver autour de vraies valeurs sympas chez nous. C'est une marque qui a une vingtaine d'années, les marques ont des cycles. C'est une marque qui a connu des très hautes périodes avec ce fameux produit moustache, qui était un produit très marketing.
Débat aussi, on peut le dire.
Débat, exactement, voilà. Puisqu'elle s'est retrouvée en 2016 quasiment au tapis. Et on a décidé justement avec le fondateur initial de reprendre la marque et d'essayer justement d'apporter cette touche plus digitale, plus jeune et plus attractive pour nos clients. Et surtout d'aller chercher cette nouvelle clientèle, puisque nos clients ont grandi et ont évolué, qui est aujourd'hui la génération Z et la génération Alpha, qui, elle, répond très positivement à ce qu'on est en train de faire depuis quelques années.
Donc, la mode a évolué depuis 20 ans, forcément, hein, les nouveaux codes, et puis des nouveaux codes d'achat, justement, avec ce que vous lancez. Alors, expliquez-nous ce que vous mettez en place. Parlez-nous de cette crypto-monnaie que vous lancez.
Alors la crypto-monnaie, c'est clairement entre guillemets un élément de ce qu'on est en train de faire. Mm-hmm. Chez nous, le Web3, c'est vu comme quelque chose de transformationnel, si je puis dire. C'est qu'en fait, il y a vraiment un changement de culture en interne. Moi, je suis initialement sorti de la tech. Donc c'est vrai que quand j'ai vu arriver le Web3 et j'ai vu la possibilité que ça nous offrait, qui était vraiment liée à cette valeur, cette distribution de valeur, qui n'a rien à voir avec une évolution technologique.
Vous avez dit qu'il faut l'associer à Eleven Paris.
Voilà, on s'est dit à ce moment-là, comment...
Vous étiez dans la tech, qu'est-ce que vous faisiez dans la tech avant?
J'ai monté une première entreprise dans les tech, donc dans l'éducation, qui était l'équivalent d'un Slack for Education. Ouais. Donc on voulait relier les étudiants, les profs et les administrateurs à travers des plateformes numériques, applications, etc. Et je connaissais le fondateur depuis des années. Eleven Paris, j'étais tout petit, ça m'avait piqué très très jeune.
D'accord.
Et quand on m'a proposé de reprendre Eleven Paris avec lui, bah, je crois que j'ai pas eu le choix en fait.
De la tech à la fashion, il y a...
Voilà, me suis dit qu'il y a quelque chose à hacker. En fait, le Web3 est arrivé en me disant, bah voilà, c'est
une
opportunité.
Ça va être la clé.
Exact. Et donc du coup, aller dans le Web3 pour nous, c'est vraiment, comme je vous le disais, un changement culturel. Et c'est d'intégrer en fait nos clients dans la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des clients qui commandent très régulièrement chez nous et qu'on n'a aucun moyen de les récompenser à la hauteur de ce qu'on aimerait faire. Leur donner des avantages en avance, des exclusivités, c'est pas assez parlant et on les emmène pas avec nous dans ce qu'on est en train de faire.
C'est-à-dire que vous aimeriez leur prouver votre reconnaissance d'une manière encore plus forte.
Encore plus forte. Donc c'est pas nous un élément marketing d'aller dans le Web3. Pour nous, c'est un changement radical qui fait qu'on s'engage en tant que marque à même réinvestir un pourcentage de notre chiffre d'affaires dans notre crypto-monnaie afin d'assurer en fait le fait que si notre business croît de 10, 15, 20%, à minima, notre token puisse croître de 10, 20, 15%, 15% et à tous les clients qui nous auraient fait confiance à ce moment-là, qu'ils puissent en bénéficier. Alors comment ? De manière très simple, soit en allant en boutique et en achetant des produits et en recevant tout de suite dans un système de cashback actuel des LVN, puisque notre monnaie va s'appeler le LVN, notre crypto-monnaie va s'appeler le LVN, soit en utilisant des produits Web3, comme ce que vous avez peut-être vu sur vos écrans, des NFT, puisqu'on en parle justement, à travers tout notre côté créatif, puisqu'une marque, elle est censée être créative et faire rêver. Donc, on a créé tout un univers avec notre nouveau personnage qu'on a présenté aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, ça
c'est le petit personnage qu'on voit là.
Exactement, qui s'appelle Joki, qui a traversé le Cosmos à travers l'explosion, justement, de notre token LVN et qui crée aujourd'hui cette fameuse galerie d'art dans laquelle on va pouvoir se balader et retrouver nos différents NFT qui seront vendus sur le site eleventparis.com le 28 juin. Avec un premier vernissage, d'ailleurs. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est une marque de prêt-à-porter, mais qu'on rentre aujourd'hui dans un niveau qu'on ne connaissait pas, dans l'art. Donc, le lundi 27, on fera un vernissage à la Elia Art Gallery, au 75-017 Paris, 14 avenue des Ternes. Donc, vous êtes le bienvenu. Afin justement de promouvoir ça en tant qu'art réel, puisque ça plaît. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a un vrai succès sur ce petit sujet-là, d'avoir créé Joki, qui est notre personnage qui va expliquer et qui va aussi culturer nos clients, parce qu'on est quand même très en avance de phase par rapport à ce qui se fait, et petit à petit l'utiliser pour justement présenter des nouvelles expériences dans le Web3, dans le métaverse.
Alors vous dites que vous êtes en avance de phase, je le confirme, puisque c'est une première mondiale, en tout cas dans le secteur du retail, ce que vous faites.
Alors, on est en train de le faire en partenariat avec la Key Foundation qui a créé Club et un sous-jacent qui s'appelle Lucky, qui est une crypto-monnaie Lucky, qui a pour objectif d'emmener en fait toute la finance centralisée vers la finance décentralisée et aujourd'hui vers quelque chose qu'on appelle nous la BrandFi, donc la côté marque décentralisée. En fait, c'est une première mondiale. On essaie d'être pionnier sur ce sujet-là. Revolut a annoncé qu'il lançait son loyalty token également il n'y a pas longtemps, mais dans le retail, personne ne l'a encore fait. C'est un vrai engagement, c'est un vrai commitment. Dans quelques jours, il y aura un white paper qui sera public expliquant qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment on peut le faire. Donc c'est super excitant, il y a un super accueil. Et puis on espère que d'avancer et de voir ce que l'avenir nous proposera.
Dernière question, est-ce que vous pensez que le public qui apprécie votre marque va comprendre toute cette démarche? Parce qu'il y a toute une démarche pédagogique immense à faire là-dedans. Parce que autant une carte de fidélité, on sait ce que c'est. C'est un peu ça finalement, mais totalement augmenté en quelque sorte, il faut l'expliquer.
Exact, en fait c'est notre programme de fidélité 3.0, c'est si ça. Je puis dire. Ouais. Mais en fait on vous demande de rien faire si ce n'est de recevoir. C'est-à-dire qu'on cherche juste à vous récompenser. En achetant nos NFT, vous allez recevoir des utilités agréables, même potentiellement des œuvres d'art en réel, mais vous recevrez tout de suite aussi de notre crypto-monnaie qu'on vous droppera à ce moment-là. Donc dès que vous achetez un NFT, vous recevrez notre crypto-monnaie. Et dès que vous achetez un NFT, chaque lundi, donc ça ce sera une première aussi, on a appelé ça le programme Happy Mondays, vous recevrez des LVN sur votre wallet, puisqu'on veut vous remercier de votre fidélité. Donc ça, c'est top. Le sujet culturation, il est important. On est quand même en face d'une génération Z et Alpha. Ils ont nos clients entre 12 et 20 ans aujourd'hui. Donc si on n'arrive pas à convaincre cette clientèle-là, c'est qu'on n'aura peut-être pas utilisé la bonne méthode. Mais en tout cas, il y a beaucoup de clients à nous qu'on a déjà commencé à approcher pour savoir si ça leur parlait. Et la réponse, elle commence à être oui.
Ça
prendra
bien.
Du temps, mais très bien. On fera ce qu'il faut.
Merci beaucoup, Ilan Amar, directeur général d'Eleven Paris.
Merci à vous.
Autre exemple qui va vous intéresser, j'en suis sûr, c'est l'arrivée des NFT dans la billetterie. Avec donc Robin Champsé qui est là. Présentez-nous Billy, s'il vous plaît, Robin.
Alors, chez Billy, on développe des solutions donc, de billetterie et surtout d'engagement dans le domaine du live, de l'événementiel, sportif, musical, festival, etc. Et évidemment, tous nos billets sont des NFT. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà, on a vu ce qui s'est passé au Stade de France, ça arrivait avec Orelsan, il y a des gens aujourd'hui... Quand on achète un billet, c'est un PDF qu'on reçoit, donc c'est facilement duplicable.
Piratable, voilà.
On en a plusieurs fois. Et aujourd'hui, le billet... Quand c'est un NFT, il est unique. Donc déjà, on a plus ce problème-là.
Donc on élimine en fait toute la fraude.
Exactement. Alors oui, bien sûr, on élimine.
Alors, on peut pas dire à 100% parce que
non, jamais à 100%. Mais en tout cas, tout ce qui est fraude papier, je revends mon billet plusieurs fois, ça c'est avec billet c'est fini. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de contrôler, on va dire, le marché secondaire de la revente. Aujourd'hui, quand un billet est émis dans la nature, parfois il va être vendu, revendu à des prix exorbitants. Par exemple, finale de Ligue des Champions, où il y a des billets qui étaient que 4 500 €, alors qu'initialement, ils étaient à 300 €. Donc ça, demain, avec Billy, et notamment les smart contrats, qui vont permettre de contrôler le marché secondaire en fixant un prix maximum, en fixant des royalties.
C'est-à-dire que vous pourriez limiter la spéculation, en fait, c'est ça ?
Exactement. Exactement. C'est ce qu'on préconise, en fait, c'est aux orgas, c'est de leur laisser le choix. On leur dit, si vous voulez que le billet se revende plus cher, vous pouvez, mais vous prenez des royalties, donc vous récupérez automatiquement une partie de la valeur.
D'accord.
Si vous voulez caper les prix, et ben vous mettez un prix maximum, et le billet ne pourra pas être revendu au-dessus de ce prix-là.
Très bien. Ça existe déjà, Billy, en fait ? Vous vendez déjà des billets en NFT ?
Alors, ouais, on a fait notre première opération vendredi dernier. Je pense que c'était une première en France, que tous les billets soient mis sous forme de NFT. C'était une soirée rap à Orléans, avec une mouse party, avec Rat Cartier, Squidgy, qui sont des rappeurs de la scène orléanaise. Donc oui, c'était le premier événement.
Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que tout le public qui est venu a compris le concept ? Vous avez eu des retours ? Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui est négatif ?
Bien sûr. Écoutez, les retours sont globalement très positifs. Et il y a une deuxième proposition de valeur de Billy qui est au-delà de l'aspect contrôle, empêcher la vente, etc., qui est le vecteur engagement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dans tous nos billets, on va cacher des tickets d'or. Par exemple, un peu comme Willy Wonka avec Charlie la chocolaterie, ses tickets d'or, etc. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il y aura
des petites pochettes surprises, quoi.
Exactement, qui referment des expériences uniques. Et par exemple, vendredi dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 5 personnes qui ont pu accéder au backstage parce qu'ils ont les 5 golden tickets, donc ils ont pu rencontrer les artistes.
Mais ils ne le savaient pas avant.
Exactement.
C'est ça qui est top, c'est qu'on peut le dire à l'achat du ticket, et là ça coûte plus cher, ou alors c'est une petite loterie en quelque
sorte. Exactement, c'est une loterie, et l'idée c'est de permettre aux orgas et aux artistes de venir événementialiser un peu l'acte d'achat.
Mais on peut imaginer ça aussi avec la fashion finalement.
Partout, c'est ce que je disais en le rencontrant juste avant, c'est qu'en créant des événements comme notre vernissage, typiquement on pourrait donner des accès déjà uniques, on s'assure des personnes qui rentrent, et en plus de ça apporter des nouvelles utilités comme là ce fameux Billy Wonka.
Exactement.
J'en parlais tout à l'heure, donc il y a eu le Super Bowl qui a fait des tests comme ça. Est-ce que c'est déjà, j'allais pas dire courant, mais ça arrive dans d'autres pays en fait ?
Ouais, bien sûr. Ouais, il y a une boîte aux États-Unis qui est assez avancée là-dessus. Il y a une boîte à Amsterdam également. Qui s'est lancé depuis 2018 à peu près. Donc il y a déjà des boîtes qui sont implantées ailleurs. Il y a évidemment pas mal d'autres startups en Angleterre, à Tallinn. Voilà, il y a d'autres initiatives qui ont des positionnements un peu différents, mais ça, en tout cas, ça arrive.
Ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'on n'est pas obligé de payer avec des cryptos, de comprendre la blockchain. Comment on achète en fait ces billets NFT ?
Ouais, évidemment, ça c'est un enjeu hyper important pour nous. Surtout qu'on a pour ambition d'être un projet mainstream qui touche le grand public.
Donc en fait, la techno, il faut qu'elle soit transparente dans cette histoire.
Exactement. Et sur Billy, ce qui est top, c'est qu'en 40 secondes, on a notre NFT, on achète en euros, on nous génère en 3 clics un wallet, ce qu'on appelle un wallet, qui est un coffre-fort digital dans lequel on va pouvoir stocker de manière sécuriser nos billets. Et évidemment, on a toujours le choix entre est-ce que je passe par le système crypto où j'ai déjà mon wallet, ou est-ce qu'on m'en génère un, puis après au moment du paiement, est-ce que je paye en crypto si j'en ai, ou alors je peux payer en euros. Pour nous, notre enjeu, c'est vraiment de simplifier au maximum l'expérience utilisateur, et ce qu'on essaie de faire.
Très bien. Pouvoir... Prochain concert, c'est quand ?
Alors, malheureusement, on n'a pas le droit de vous le dire, ça. Ah. On en a pas mal qui vont arriver. Et vu que c'est des choses assez importantes pour nos partenaires, nos premiers clients,
bien sûr.
Ils veulent vraiment garder...
Pour l'instant, que ce soit un secret.
Exactement.
Mais il y a évidemment du grain à moudre, on va dire.
Il y en a en juillet, il y en a pas mal en septembre. Il y a des beaux festivals qui arrivent.
Ouais.
Donc, c'est top.
Mais c'est intéressant parce que hier, à votre place, il y avait Jean-Michel Jarre qui se lance dans le métavers avec la start-up Vroom. Ouais, et je me dis que, évidemment, là, la boucle est bouclée. Entre les billets en NFT pour voir des concerts comme ça, sans se déplacer dans des univers virtuels ou en VR totalement, ça a du sens.
Oui, il y a des synergies.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci Robin Champsé, donc cofondateur de Billy, et Ilan Amar avec la renaissance d'Eleven Paris en Web3.
Merci.
Évidemment, tous ces projets crypto passionnants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite de Tech & Co. À tout de suite.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de la tech, et on poursuit avec nos invités qui sont toujours là. Robin Champsé, donc cofondateur de Billy. Imaginez des billets de concerts, de spectacles en NFT. Tout à l'heure, Robin nous a expliqué concrètement ce que ça représentait, mais vous allez voir qu'il y a toute une stratégie aussi de Golden Ticket qu'on a évoqué rapidement, mais on va y revenir. Et puis, Ilan Amar qui est toujours là, directeur général d'Eleven Paris, une marque de fashion qui lance donc sa propre crypto-monnaie. Il s'appelle le LVN, hein, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Comment vous avez choisi ce nom LVN ?
Initialement, c'est un acronyme qu'on utilisait
Eleven.
Beaucoup. Alors ouais, alors c'est LVN. On utilisait beaucoup le LVN PRS comme acronyme puisque le nom de la marque était plutôt plutôt long. Et puis c'était un peu une évidence. Au moment où on a décidé avec les équipes techniques de la Key Foundation de lancer l'acronyme de la crypto-monnaie, d'utiliser ces trois lettres qui étaient pour nous les plus parlantes.
Ilan, je le disais tout à l'heure, c'est une première mondiale, cette histoire de, en fait, de crypto-monnaie pour récompenser les clients, mais ça va déferler, ça. C'est-à-dire que là, franchement, vous avez du nez. C'est d'ailleurs étonnant que vous soyez les premiers, c'est tant mieux, mais les grandes marques, même de prêt-à-porter, vont se lancer là-dedans. C'est sûr, non ?
Le cheminement a été très important pour nous, c'est-à-dire qu'on est une marque donc créative, comme toutes les marques, elles sont créatives initialement, et en fait... pour aller passer à l'étape d'après, après tous ces sujets de NFT, de création ou autre, il fallait trouver un sens par rapport à notre business réel, qui est d'acheter et de vendre des produits et de donner à nos clients des sacs avec dedans des produits. Et donc, en fait, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu comme en 2004 ou 2005 et de me dire, j'ai un réseau de boutiques, il y a le Web 1, je vois sur le Web 1 des photos arrivées de produits, je me dis, ça serait sympa d'avoir mes produits sur des photos et peut-être de potentiellement utiliser ces photos et d'appuyer sur le bouton et de le recevoir chez moi. Donc c'est comme si je me disais le e-commerce est en train d'arriver avec ce qui est en train de se passer. C'est un peu le chemin Web3 qu'on est en train de prendre. On a l'impression qu'en étant pionnier, parce qu'on est quand même très bien accompagné avec une fois de plus la Key Foundation qui a pour but de faire ça, de se dire on est en train de décrire un chemin qui pour nous est très vertueux, puisqu'on partage de la vraie valeur, c'est pas du vent, avec nos clients, et on espère que d'autres marques prendront ce pas très rapidement.
Alors dans le Web3, il y a le métavers aussi, on l'a pas évoqué. Quand on voit votre petit personnage là, on y est. Finalement, en tout cas, on se rapproche de cet univers. On voit que Adidas ou Nike vend des paires de sneakers à des prix insensés. En NFT en quelque sorte, oui, c'est des NFT. Est-ce que ça vous inspire ça aussi?
Alors ça nous inspire énormément pour un sujet qui n'a pas encore été évoqué, c'est le sujet des collaborations entre marques. C'est-à-dire que initialement quand vous faites des collaborations, des co-branding ou autre avec des marques sur des produits, une marque mainstream ou une marque luxe accessible, etc., peut pas le faire avec tout le monde, mais avec ce pied qu'on prend dans le entre guillemets métaverse avec l'arrivée de Jockey, on s'imagine déjà faire des collaborations avec des marques dans le Web3, puisque pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est uniquement le fait de pouvoir faire vivre des expériences à nos clients. Donc on va réitérer très régulièrement ce type de vidéo qui a eu un accueil très intéressant de chez nous. On n'est pas encore à l'étape de développer notre métaverse, c'est pas le sujet, mais en tout cas vraiment de rester à travers l'expérience à faire vivre grâce à Jockey.
Mais arriver dans le jeu vidéo, par exemple, ça peut avoir des sens.
On a 10 000 idées. On a 10 000 idées sur le
Après,
sujet.
Après, il faut avoir les moyens.
N'oublions pas que si on achète aujourd'hui des produits de prêt-à-porter, c'est pour les porter et les montrer.
Bien sûr.
Donc, si je suis dans le gaming et que je veux jouer, je veux aussi montrer ce que j'ai. C'est le même principe. Donc, naturellement, on peut imaginer qu'en passant à la caisse et qu'en achetant un suite, on puisse dropper tout de suite le NFT de ce suite-là dans le wallet du client pour qu'il puisse l'utiliser sur ses jeux.
C'est un investissement important de se lancer dans l'aventure du Web3 et de créer sa crypto-monnaie pour une marque de fashion comme Eleven Paris.
Je pense qu'on a la chance une fois de plus d'être bien accompagné et aussi d'avoir, je pense, ce côté tech en interne que toutes les marques retail n'ont pas, qui fait que
cette agilité que vous avez.
Ouais, on est une marque très jeune, très orientée client.
Jeune, quasi 20 ans quand même.
Quasi 20 ans.
À côté de Chanel, c'est sûr que c'est jeune, mais bon.
Quasi 20 ans, mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a plus la même clientèle. Il y a des clients aujourd'hui qui savent pas que la moustache c'est Eleven Paris. On a vraiment retravaillé ça de manière très très intense. Donc c'est vrai que aujourd'hui de se dire qu'on peut déployer des choses comme ça dans le Web 3 de manière assez, c'est pas gratuit une fois de plus, mais de manière assez réaliste. C'est pas comme à l'époque déployer un site internet, gérer des serveurs, gérer des prestataires. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de mettre en place, ça peut être quasiment gratuit. Mais une fois de plus, ça l'est pas. Il y a quelques petits coûts parce que juridiques, parce qu'aujourd'hui on avance sur des sujets de TVA, sur des NFT, puisqu'on va vendre ces produits-là. Il y a des sujets comptables. Donc, c'est vraiment des nouveaux sujets sur lesquels on va se faire accompagner. On est une fois de plus pignon sur rue, donc on est obligé d'être accompagné sur ces sujets-là.
Et puis ça peut être générateur de business.
C'est générateur de business de manière incroyable, dans le sens où aujourd'hui, utiliser la technologie de NFT pour vendre un produit que l'on n'avait pas, avec des supplies, donc des niveaux de stock que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, une marque, elle est liée au stock qu'elle a. Donc, elle peut faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires si elle a tant de stock. Peut-être qu'elle aurait pu en faire 50 si elle avait 5 fois plus de stock. Donc, avec cette technologie-là, on pourra peut-être dépasser ce qu'on est en train de faire sur le niveau des stocks habituels et arriver avec un nouveau produit qui prend plus de place.
J'aimerais qu'on revienne juste à cette idée de billets NFT, Robin, parce que vous avez expliqué que l'idée c'était que ce soit le plus simple possible pour que finalement ce passage du billet traditionnel au NFT soit simple. Mais comment ça se passe en fait sur son mobile? On peut l'acheter sur son mobile. Oui. Comment on le stocke? Vous parliez de wallet, donc il faut installer une appli spécifique.
Alors,
comment ça marche?
Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en trois clics, chez Billy, on te génère un wallet pour toi. Tu mets ton mail, tu cliques sur « Vérifier mon email », tu reçois un petit lien magique, tu cliques sur « Valider mon email », automatiquement, on t'a généré un mail sous le capot et on l'a associé à ton email. Donc, n'importe quel utilisateur qui n'a jamais eu de wallet, qui ne sait pas ce que c'est, pour nous, on lui masque cette complexité.
Oui, c'est-à-dire qu'il va créer son wallet sans le savoir.
Exactement. Vas-y. Exactement. Et à côté de ça, évidemment, on peut payer par carte bleue, on peut payer par Apple Pay, par Google Pay. Donc en fait, en trois clics, on peut également payer. Automatiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit les euros en crypto. On va interagir du coup avec la blockchain pour faire la transaction et déposer le NFT, donc le billet, sur le wallet de la personne. Et encore une fois, ça fait en 40 secondes.
Oui, ça va vite.
N'importe qui peut y arriver facilement.
Et après, si je veux par exemple transférer ce billet, alors ou le vendre, vous le disiez tout à l'heure, avec les limitations que justement les NFT peuvent permettre. Mais si par exemple je veux le donner, je peux?
Oui, bien sûr. Ça, encore une fois, c'est toujours l'organisateur qui va décider.
Mais ça enlève pas un peu de liberté malgré tout dans cet univers, le fait que ben voilà, le patron de ce festival ou de ce concert, eh bien, dise bah non, moi j'ai pas envie qu'il soit revendu plus cher. Non, j'ai pas envie qu'il soit transféré ou donné.
Ouais, bah bien sûr. Bah toutes ces règles en fait, nous ce qu'on propose, c'est de laisser le choix à l'organisateur. S'il veut qu'il y ait la spéculation, que le billet se revende, il pourra. S'il veut caper les prix, il pourra. S'il voudra bloquer le transfert, il pourra. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie ce qu'on appelle des smart contrats. Et ces smart contrats, ils vont régir les ventes primaires et les ventes secondaires et les transferts sur le marché secondaire.
D'accord. Mais vous informez vraiment vos clients de ce qu'ils vont pouvoir faire de ce billet? C'est
sûr.
Clair, c'est pas des longs contrats
non,
des petits astérisques, voilà, vous savez, comme pour les assurances.
Ouais, non, bien sûr, il y a un enjeu autour de évidemment la propriété intellectuelle, parce que nous, on redonne aussi une âme au billet en faisant des petites œuvres d'art digitales assez cool à collectionner. Et donc il y a un sujet avec les artistes avec lesquels on travaille. Il y a un sujet évidemment sur tout ce qui est reversement automatique des ventes, des billets, des royalties, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est hyper transparent, parce que la blockchain apporte de la transparence. Donc toutes ces règles, elles sont consultables dans les smart contracts qu'on déploie, et on est ultra, ultra, ultra transparent.
Est-ce que l'organisateur du festival sait à qui il vend le billet? Parce que le fait qu'on crée, par exemple, un wallet, etc., il sait que, par exemple, c'est Robin qui a acheté telle place de concert pour Chantal Goya.
Alors, c'est une bonne question.
Enfin, avant que Chantal Goya vende des tickets en NFT, je sais pas. Enfin, cela dit, je dis ça, mais on sait jamais, hein.
Bah, ce qui
et puis, vous auriez le droit d'aller voir Chantal Goya.
Ouais, bah, bien sûr. Ouais,
c'est sûrement.
Et si on pouvait un jour travailler avec elle, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Du coup, ce qui se passe, c'est que la blockchain, ça nous apporte de la traçabilité. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un achète un billet, transfère un billet, revend un billet, grosso modo, c'est écrit sur la blockchain. Donc, ça permet aux orgas et aux artistes d'avoir un lien direct, un accès direct à leur audience, ce qui n'est pas forcément le cas avec les plateformes actuelles, qui justement gardent la donnée des gens, la centralisent, etc. Donc nous, évidemment, on fournit toutes les données en fait qu'on récolte, et on laisse encore une fois aux orgas la possibilité de demander date de naissance, prénom, c'est leur choix, c'est eux qui ont la liberté de mettre ça. Mais dans la plupart des cas pour l'instant, on a uniquement ce qu'on appelle l'adresse du wallet, qui est un espèce d'ID.
Oui, bien sûr, qui est incompréhensible, qui est totalement anonyme en quelque sorte.
Oui, pseudonyme. Exactement, c'est ça.
D'accord. Vous parliez de spectacles aussi tout à l'heure. En fait, le champ des possibles est immense. En fait, ça va des concerts, des spectacles, des entrées de musées, pourquoi pas.
Exactement. On est en pourparlers avec des galeries d'art, des expositions, quelques musées aussi. Et l'important, c'est aussi de se dire dans quel verticale du marché du ticketing, est-ce qu'il y a un engagement, une fanbase forte parce que la décentralisation permet de rapprocher les communautés autour d'un projet commun, autour d'un NFT. Donc, par exemple, dans le domaine de la musique, il y a un engagement fort. Dans le domaine, évidemment, de l'art, quand on est fan d'un artiste en particulier, il y a un engagement fort. Dans le domaine du sport, évidemment, dans le foot, etc. Après, par exemple, dans tout ce qui est billets de train, billets d'avion, en vrai, ça n'a pas forcément d'intérêt.
Vous parliez tout à l'heure de Golden Ticket, ça sera ma dernière question, parce que ça aussi, c'est intéressant. Ça demande aussi un investissement supplémentaire pour l'artiste, la plupart du temps, parce que ça va être de rencontrer sa fanbase, ça peut-être passer du temps avec des choses comme ça. Est-ce que... il y a des artistes qui vont vouloir, d'autres moins, non? Enfin, je veux dire, on peut imaginer tout type de Golden Ticket.
Ouais, bien sûr. Bah, encore une fois, ça, c'est à la liberté de l'artiste et des organisateurs de choisir. Est-ce qu'on fait un niveau de rareté, quatre niveaux de rareté, X niveau de rareté, etc. Par contre, ce qui est intéressant pour un orga ou pour un artiste, c'est que la création, la créativité autour du billet est un moyen de faire du branding, et un moyen de vraiment réinventer.
Et donner la valeur au billet, même quand il a été utilisé.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
C'est ce qui s'est passé au Super Bowl, d'ailleurs, je crois.
Ouais, ouais, bien
les
sûr.
Les gens conservent leurs billets.
Exactement.
Et j'ai en souvenir.
J'ai aussi l'exemple d'un vinyle dont la pochette d'album avait été designée par Banksy, l'acteur, le dessinateur, avant qu'il soit connu. Et en fait, aujourd'hui, ces pochettes d'artistes valent des milliers d'euros.
Et on peut imaginer la même chose pour les NFT.
Exactement. Et l'idée, c'est de réinvestir le billet pour en faire quelque chose de cool et joli à collectionner.
Très bien, start-up à suivre, ça s'appelle Billy. Merci beaucoup, Robin, d'être passé
merci
par le plateau de Tech & Co. Et cette crypto d'Eleven Paris. Merci beaucoup.
Merci
Ilan Hamar, vous en êtes le directeur général. Il est 21h30 quasi sur BFM Business, la suite de Tech & Co. Juste après le journal de Claire Cecchiaghini, ça sera notre plongée dans la French Tech. On va parler d'un tout autre sujet, de l'agriculture et de la tech. Et vous allez voir, c'est toujours aussi passionnant. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Nous sommes de retour. Tech & Co sur BFM Business jusqu'à 22h. Agriculture et tech, c'est AgriTech. Plongé dans notre French Tech ce soir avec nos deux invités. Clément Ray est avec nous. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes président et cofondateur d'Innovafeed. Vous êtes une entreprise mondiale de biotechnologie et vous êtes un leader de la production d'insectes à destination de la nutrition animale, végétale et peut-être humaine aussi. Mais on va en parler dans un instant. Et Paolin Pasco est avec nous. Bonsoir Paolin.
Bonsoir.
Cofondateur d'Agriconomie. Alors vous, c'est intéressant parce que en fait vous êtes une immense boutique pour les agriculteurs, si on peut résumer. On commence par vous et puis après on donnera la parole à Clément. Allez-y.
Bon, Agriconomie, c'est une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs d'acheter plus simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin. Donc notre promesse, c'est de les aider à trouver rapidement le bon produit, à les livrer encore plus rapidement chez eux, pour qu'ils puissent passer un maximum de temps sur leur cœur de métier, à savoir travailler nos champs et trouver des stratégies qui leur permettent d'avoir de meilleurs revenus et d'avoir un impact environnemental meilleur.
Alors vous cartonnez, hein, vous avez 8 ans.
À 8 ans, on commence à avoir quelques rides.
Ça se voit pas.
Merci.
Créé dans la Marne, 70 salariés, 45 millions de chiffre d'affaires, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires,
Non, c'est des chiffres un peu
vieux.
Bon, vous êtes à combien aujourd'hui ? On va faire 65 millions,
65,
même un peu plus.
65, d'accord.
Entre 65
et 70
millions. On doit être 70, 80 salariés. On a fait 11 millions de chiffre d'affaires. Le mois dernier, on a une croissance qui est très forte. On est une entreprise.
Et vous avez un tiers
rentable.
Des agriculteurs qui ont commandé sur Agriconomie aujourd'hui.
On a un tiers des agriculteurs français qui ont déjà commandé sur Agriconomie.
Incroyable.
Avec maintenant plus de 110 000 clients agriculteurs sur la plateforme. Et on a 85% des agriculteurs français qui sont enregistrés sur Agriconomie et 80% des agriculteurs français qui viennent tous les mois sur Agriconomie.
Mais qui n'achètent pas, qui regardent.
Alors, qui viennent, qui comparent les prix, qui viennent chercher de l'information objective, parce qu'un de nos métiers au démarrage, ça a été de donner accès aux agriculteurs à une information objective qui leur permette de prendre de meilleures décisions, donc en leur proposant et en leur affichant des prix rendus dans l'exploitation, en leur donnant des informations de marché, vu qu'on a une très belle image de ce qui se passe sur le marché, parce qu'on a toutes les tendances vu qu'on a tous les agriculteurs. Ouais. On peut leur redonner de l'intelligence pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions sur leur exploitation.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'un agriculteur, ça s'achète pas ce qu'on achète. Forcément, c'est pour ça que vous êtes spécialisé dans ce secteur. Ça achète des engrais, des semences, des pièces détachées, de tracteurs, enfin des trucs voilà, dont ils ont besoin. Quels sont les produits qu'ils ont de plus sur Agriconomie ?
Nous, aujourd'hui, on touche un scope tellement énorme. On a 280 000 produits disponibles sur le site et on touche tous les produits dont ont besoin les agriculteurs à travers la France, mais aussi maintenant à travers l'Europe, parce qu'on est présent en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, et on continue à avoir une croissance très forte.
Et ça s'appelle aussi Agriconomie.
Ça s'appelle Agrico dans ces pays-là.
Agrico,
donc ah c'est ouais. un peu plus court. Ah. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est d'aider les agriculteurs à être plus performants économiquement et sur tout le plan environnemental. C'est vraiment l'objectif de l'entreprise, d'accompagner tous nos agriculteurs qui sont le terreau de l'économie française, qui sont les plus gros travailleurs français et qui contribuent très fortement à notre économie et au fait qu'on soit aujourd'hui un des pays les mieux servis en alimentation avec une agriculture parmi les plus propres au monde. Donc on doit tirer notre chapeau à nos agriculteurs qui sont les héros de ce 21e siècle parce qu'ils ont à répondre à une multitude d'enjeux et à des enjeux
d'humanité,
parce que comment est-ce que nous allons nourrir 10 milliards de personnes dans les années à venir et nourrir 10 milliards de personnes plus sainement? Comment est-ce que nous allons mieux gérer l'accès à l'eau douce? Comment est-ce que nous allons réussir à créer des îlots de production énergétique verte et locale? Et surtout, voilà. un enjeu majeur, j'imagine. Comment est-ce que nous allons combattre le réchauffement climatique?
Voilà. Qui perturbe complètement les métiers des agriculteurs.
Totalement. Et les agriculteurs sont la solution à toutes ces problématiques et ont pris ce sujet en main, mais ces défis-là seront solutionnés grâce aux agriculteurs.
Paulin, est-ce que vous êtes une marketplace ?
Nous ne sommes pas une marketplace.
D'accord, c'est-à-dire
nous
qu'aujourd'hui,
sommes un distributeur en ligne.
Vous avez des hangars, vous stockez tout votre matériel,
alors
en fait,
tout
ce que vous vendez, comment
tout.
Ça se passe ?
On a 7 ou 8 000 mètres carrés de stock avec une superbe équipe qui est dirigée par une femme incroyable chez nous qui s'appelle Camille, qui gère toute notre équipe logistique. Donc oui, on a du stock, mais on a 4 000 références en stock contre 280 000 disponibles sur le site. Donc on travaille avec des fournisseurs à travers la France, à travers l'Europe, qui vont livrer directement nos agriculteurs, où on fait ce qu'on appelle du cross-docking, je ne connais pas le mot en français. Donc on va aller approvisionner nos entrepôts, mais pas rentrer les produits en stock. On va directement les livrer chez nos clients. D'accord. Donc voilà. Et puis on a aujourd'hui 3 ou 4 entrepôts, et on est capable de couvrir à peu près 50% des exploitations françaises en livraison 12 heures et la totalité de la France en livraison 24 heures.
12 heures donc, la moitié de la France, combien vous avez dit, c'est
oui.
ça
incroyable. Presque la moitié de la France.
D'accord. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous compare à Amazon, mais pour qu'on comprenne bien, vous êtes un peu le Amazon de l'agriculteur, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas une marketplace. Est-ce que vous y pensez ?
Évidemment.
Est-ce que ça a un sens ?
Évidemment, ça a un sens. Mais lorsqu'on a commencé Agriconomie, lancé avec mes deux associés Clément et Dean, le marché n'était pas prêt pour la marketplace. Les gros acteurs n'étaient pas prêts à facturer les agriculteurs directement, à prendre le risque de défaut de paiement des agriculteurs, pour certains. Donc, c'est des acteurs qui ont voulu rester très en retrait et qui ne voulaient pas couper leur circuit de distribution traditionnel. Et donc on travaillait avec des distributeurs et nous sommes des distributeurs en ligne, mais nous sommes persuadés avec mes cofondateurs et avec l'équipe que la marketplace prendra essor dans les années à venir.
Très bien, vous restez avec nous bien sûr, Paulin. Tiens, peut-être que InnovaFeed est l'un de vos clients.
Alors pas encore, mais on a peut-être beaucoup de choses à faire ensemble.
Vous l'avez vu ?
Après,
il perd pas la main hein, quand même. Hein.
Il a raison.
Merci d'être avec nous, Clément, président et cofondateur d'InnovaFeed. Et donc vous êtes dans la biotechnologie, hein, et ce que je disais, c'est que vous produisez des insectes à destination de la nutrition animale et végétale. C'est ça.
Oui, absolument. Et quelque part, si on veut repartir des objectifs que l'on poursuit chez InnovaFeed, c'est d'apporter des solutions pour rendre notre système alimentaire plus durable. Paulin a parlé des enjeux auxquels on passe, augmentation de la population, 25% des émissions de CO2 mondiales sont liées à notre système alimentaire, ouais. 80% de la perte de biodiversité. Et en face de ces défis, on a d'une part besoin de changer nos habitudes alimentaires, mais on a aussi besoin de rendre plus performants les chaînes de valeur existantes. Rendre plus performant la façon dont on élève des poissons, dont on élève des poulets, dont on produit en fait des fruits et légumes. Et quelque part, en redonnant à l'insecte
la place dans le système alimentaire qu'il a naturellement dans la nature.
Bien sûr. Dans la chaîne alimentaire, l'insecte est capital, en fait.
Le rôle de l'insecte dans la chaîne alimentaire, c'est de transformer des déchets, des fruits en décomposition, par exemple, en humus, et ce faisant, de réinjecter des nutriments, parce que les insectes sont ensuite mangés par des petits oiseaux, des poissons, des mammifères. C'est exactement ce principe de circularité.
Qu'on a perdu, un peu, finalement, avec l'élevage intensif, etc.
Absolument. En tout cas, étant donné l'échelle de notre système alimentaire aujourd'hui, de la population et les défis environnementaux, on a besoin de réintroduire. Pour le réintroduire, par contre, ça nécessite le développement d'une plateforme technologique assez poussée pour rendre la production d'insectes compétitive sur le plan économique et environnemental.
On a un vrai savoir-faire hein, là-dedans. Entre vous, Insect et vous, vous êtes deux pépites dans ce domaine-là. Comment expliquer qu'on a ce savoir-faire, en fait ? Comment vous l'expliquez ?
Je pense que tout d'abord, ça correspond, il y a un vrai besoin de marché très clair. Une croissance très forte de l'agriculture, par exemple.
Mais tous les pays sont victimes de ça, non? Il y a une prise de conscience en France qui est peut-être un petit peu plus tôt que chez nos voisins.
On a d'autres acteurs qui sont aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Malaisie qui se développent également. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux à trois acteurs, ce qu'on peut citer par exemple aussi Agriconomie, qui a levé 100 millions d'euros, présents en France.
Agriconomie? Oui, bien sûr.
On peut citer Agronutrice.
Voilà, Agriconomie, je me disais, tiens, Paolo n'était même pas au courant, en fait, qui faisait ça. Mais c'est pas
je vais vérifier les comptes, est-ce qu'on a reçu 100 millions? Je suis preneur.
Et donnez-moi les codes, au passage, pardon.
Je vais mettre en relation avec Agronutrice, peut-être qu'on pourra négocier avec eux des royalties.
Agronutrie.
Donc avec moi, il y a tout un écosystème, trois acteurs majeurs, et quelque part, je pense que la compétition stimule également. Et on voit que, par exemple, en Allemagne, il y a une industrie automobile qui est très forte, et ce n'est pas un hasard, complètement.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est en fait la protéine animale que vous réinventez, en quelque sorte, parce que, un insecte, c'est de la protéine animale. Vous en faites quoi? Vous en faites de la farine, en fait? Qu'est-ce que vous en faites de ces insectes?
On produit notamment de la protéine qui est ensuite incorporée dans la nourriture d'animaux, des poissons par exemple, en remplacement des farines de poissons, du fish meal, donc des petits poissons pêchés en Amérique du Sud, en Afrique. Et le produit qui a été développé à partir des insectes que l'on élève est un substitut meilleur pour l'environnement, moins d'impact sur la biodiversité, un plus faible impact carbone. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ce faire, il faut développer non seulement des sites industriels, ce qu'on appelle des fermes verticales.
Oui, parce qu'un insecte, c'est petit. Il faut des milliards pour fabriquer des tonnes de produits, j'imagine.
Absolument. Donc, on a besoin de développer beaucoup de robotique, de l'automatisme, travailler sur la génétique de l'insecte. Et pour partager un chiffre, aujourd'hui, sur les 350 personnes qui travaillent chez InnovaFeed, on a plus de 250 ingénieurs, PhD, postdocs, qui travaillent sur tous ces pans du développement technologique. Ce qu'on est en train de faire, fondamentalement, c'est développer en quelques années une industrie complètement nouvelle et qui répond à un vrai besoin de société.
C'est-à-dire qu'en même temps, vous imaginez votre métier et vous produisez, finalement. C'est ça. C'est vous faites de la R&D au quotidien.
Bien sûr. C'est le défi d'un scale-up où on a besoin de développer la technologie.
Bien sûr.
De l'industrialiser.
De faire du business.
De construire le business model. De sécuriser les ventes de nos contrats. De se financer, de construire l'organisation humaine. Et c'est ça qui rend le projet assez intéressant.
C'est quatre piliers hein, sur lesquels toutes nos entreprises s'accrochent aujourd'hui. C'est que pour continuer à grossir et devenir de vrais scale-up, on a besoin de trouver les bons people, les bons collaborateurs. Et pour avoir les bons collaborateurs, il faut qu'on ait le bon business model. Pour avoir le bon business model, il faut qu'on ait, et pour trouver du financement, il faut qu'on ait l'impact aujourd'hui. Donc on a quatre piliers qui sont aujourd'hui indispensables pour nos entreprises. Et le cœur reste nos collaborateurs, à savoir attirer les bons, leur tirer la ligne de sens et la ligne de direction, et de construire avec eux, parce qu'on fait beaucoup de test and learn, on essaye.
C'est compliqué ça, non, d'attirer les bons, justement.
Alors, c'est la guerre des talents, ça va être de plus en plus fort.
Mais quelque part, en fait, il y a énormément d'interconnexions entre tous les piliers que tu as décrits, en fait, pour les valeurs d'entreprise, sa mission, son impact, est absolument décisif sur son capacité à recruter les meilleurs talents.
Exactement.
C'est essentiel. Cette performance humaine, ensuite, mise au service de la performance d'un projet. L'année dernière, par exemple, on a eu plus de 12 000 candidatures chez Novafin. On avait passé 1100 entretiens. Et je pense qu'on explique beaucoup, en fait, la croissance.
Pour combien de postes qui étaient à pourvoir?
On a fait plus de 170 embauches l'année dernière.
Juste une question, parce que donc, vous vous intéressez à la nutrition animale, végétale. Je disais tout à l'heure humaine. Est-ce que c'est une question? L'humain, on est prêt, est-ce que on sera prêt un jour finalement à avoir dans notre alimentation ce type de protéines animales?
Ouais, j'en suis convaincu. Je pense que le marché est...
est énormissime, en fait.
Est un peu moins mature que le marché de la nutrition animale. Mais le potentiel intrinsèque des produits issus d'insectes pour la nutrition humaine est très fort. Il faut savoir que l'impact carbone de la protéine d'insecte est plus faible, beaucoup plus faible que l'impact carbone de la protéine végétale. La valeur nutritionnelle...
Donc c'est imbattable, en fait.
Sur les intrinsèques, qui sont la performance environnementale et la performance nutritionnelle, c'est imbattable. C'est imbattable. Et donc, il y a un certain nombre d'obstacles réglementaires qui sont en train d'être levés.
Oui.
Marketing.
Sociétaux.
Mais je suis absolument convaincu que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce seront des ingrédients qui seront inclus dans les différentes préparations.
Comment on peut l'imaginer ? Farine ?
Je pense que ça va.
Après, bon, il y a les gadgets là, les apéritifs, les insectes grillés, etc. Mais bon, ça c'est.
Qui à mon sens restera marginal. Ouais. Je pense que les marchés sur lesquels ça va commencer, c'est ceux de la nutrition sportive, par exemple.
Ouais.
Ceux d'ingrédients dans des meat analogues, par exemple, dans les produits de Beyond Meat, de Impossible Food. C'est un ingrédient qui pourrait en fait remplacer certaines protéines concentrées de pois ou de soja qui ont d'autres défauts.
Oui, mais est-ce que ça plairait aux végétariens, ça, le fait de réinjecter de la protéine animale? C'est une question, ça, philosophique, finalement.
C'est une très bonne question. Ça dépend pourquoi est-ce qu'on est végétarien.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est une condition de... Est-ce que c'est
le bien-être animal,
de spiritualité, du bien-être animal, d'impact environnemental. Et je pense que chacun aura sa propre réponse.
Mmh. On ouvre des débats passionnants, là. Mais malheureusement, il faut se dire au revoir. Voilà, l'heure tourne, bientôt 22h. Merci à tous les deux.
Merci
Clément, président et cofondateur donc InnovaFeed, et Paolin Pasco, donc le cofondateur d'Agriconomie. Merci d'être passé par le plateau.
Merci
de Tech
& Co.
Merci pour l'invitation.
Tech & Co est terminé, merci de nous avoir suivis. Demain, Vivatech, les amis. Et oui, nous serons à Vivatech. C'est à quelques centaines de mètres d'ici, mais on va délocaliser notre plateau pour vous faire vivre au cœur de ce salon, toute cette innovation grouillante. Donc rendez-vous demain pour Tech & Co, demain mercredi, depuis Vivatech. Portez-vous bien, bonne soirée et à demain.